France Inter, le 7-9, intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000. Alors j'ai d'abord une question liminaire qui me semble pertinente. Éric du Val d'Oise qui nous demande, qui vous demande aussi, pourquoi n'y a-t-il aucun invité en faveur de Trump? Cela permettrait de développer le débat et d'opposer certains arguments. Est-ce que vous en connaissez, vous, dans le débat français, des intellectuels qui... sont favorables à Trump, Sylvie Laurent?
Oui, non. Oui, on en a mentionné. Ça doit exister. Mais il ne s'agit pas d'être pour ou d'être contre. Je crois qu'il faut constater ce que l'on voit, ce que l'on entend, et analyser ce que l'on peut supputer. Il ne s'agit pas de prendre parti. Au demeurant, nous ne sommes pas américains et nous ne votons pas. Ce qui est d'ailleurs le grand regret des Français qui se passionnent régulièrement pour les élections américaines et qui adoreraient être consultés.
Bon, enfin, en tout cas, il s'est trouvé un institut de sondage qui a étudié l'opinion des Français pour ou contre Donald Trump, et les résultats sont assez éloquents. C'est dans le, j'ai lu ça ce matin, c'est dans les Échos, je crois, hein, où il y a 85% des Français qui ont une très mauvaise image de Donald Trump. Guillaume nous appelle de Reims. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour Monsieur Cohen, bonjour. Et bonjour à vos invités. J'appelais par rapport à l'une des remarques de vos invités, de madame dont j'ai oublié le nom.
Sylvie Laurent.
Vous indiquiez que Donald Trump souffrait d'un déficit de légitimité, notamment eu égard au fait qu'il n'ait pas gagné le vote populaire. Pour moi, cette présentation est complètement absurde, parce que d'une part, la campagne qu'a menée Donald Trump ne se fondait pas sur un résultat qui serait lié à un vote populaire, donc Donald Trump n'a pas fait campagne en Californie ou dans l'État de New York, par exemple, parce qu'il n'avait pas pour but de conquérir l'électorat dans le sens du vote populaire, mais au sens de l'élection à l'américaine, c'est-à-dire avec des représentants. Et d'autre part, un électeur qui se situerait dans l'État de New York ou dans l'État de Washington, puisque 95%, je crois, ou 93% des électeurs de l'État de Washington ont voté contre Trump, n'a aucun intérêt à se déplacer. Donc parler de manque de légitimité compte tenu du vote populaire n'a aucun sens. Donc j'aimerais savoir ce qui permet à votre invité d'être aussi péremptoire sur le sujet.
Elle va vous répondre. Merci Guillaume. Sylvie Laurent.
Oui, alors je me suis mal exprimée. Je n'ai pas dit que l'absence de vote populaire le rendait illégitime.
Il y a 3 millions de voix d'écart, on rappelle, en faveur de
Hillary Clinton. J'ai dit que c'est un président qui souffre de la crise de légitimité la plus importante de tous les présidents que l'on a vus. Parce qu'il y a eu une accumulation, et la première chose qu'ont fait ses opposants, et je me place du point de vue des Américains, a été de questionner la légitimité d'un processus. Vous savez qu'ils ont entamé des recomptes, qu'il y a eu des manifestations, et qu'encore aujourd'hui, beaucoup de manifestations parlent de manifestants de ces 3 millions de voix. Néanmoins, je suis parfaitement de l'avis que le système électoral américain étant tel qu'il est, la Constitution impose que ce soit les grands électeurs et que par conséquent, ce soit tout à fait le nombre de grands électeurs et non les votes populaires qui l'emporte, et donc en effet il est parfaitement élu légalement, et je n'ai jamais dit que ça le rendait illégitime. Je disais juste que pour un certain nombre d'Américains, et en particulier bien sûr pour ses opposants, la succession d'éléments, en particulier depuis le vote populaire et puis la Russie, de même que je ne crois pas davantage que l'intervention de la Russie les fait élire, même si c'est un argument que l'on entend. Et ensuite, en revanche, le point sur lequel je serais sans doute plus concernée, qui est la question des conflits d'intérêts, pose des questions de légitimité. Donc je voulais juste souligner à quel point la journée d'aujourd'hui et le rituel civique que représentait la légitimation par la journée d'inauguration était importante pour quelqu'un qui avait souffert depuis son élection d'attaques répétées. Et je pense notamment à John Lewis, le grand représentant des droits civiques, qui la semaine dernière a encore dit « c'est un président illégitime » en prenant appui sur ces trois éléments que je viens d'évoquer.
Et Donald Trump a répliqué en critiquant violemment John Lewis, et du coup en faisant décoller les ventes de ses livres à John Lewis, qui connaissent un succès considérable, à nouveau un succès de librairie. François Bujon de l'Étang, on peut souligner tout de même que c'est un président qui part avec un niveau de popularité extrêmement bas, et qui contraste avec celui... Barack Obama.
C'est vrai, il part avec un niveau de popularité très bas et qui d'ailleurs s'est dégradé pendant les 3 mois de la transition, il faut le souligner. Il y a aujourd'hui 53% des Américains qui disent qu'ils ne font pas confiance à Monsieur Trump au moment où il... Sur cette affaire de légitimité, juste 2 remarques très rapides. La première, c'est que nous, Français, nous avons dans notre ADN l'idée de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et nous avons tendance à nous fixer sur cette différence entre le résultat de l'élection aux États-Unis et le fait que le vote populaire est allé à Hillary Clinton. 2 800 000 voix exactement d'avance pour elle. Mais les Américains ne sont pas du tout comme nous. Ils ne s'hypnotisent pas du tout là-dessus. Ils considèrent que c'est le jeu des institutions. Ça ne les dérange pas. Eux, ils ont le fédéralisme dans leur ADN que les Français ne comprennent pas. Et c'est une raison pour laquelle nous avons tendance à accorder à cette singularité plus d'importance que les Américains ne le font.
Même s'il y a eu des voix de juristes et de constitutionnalistes pour dire qu'il fallait changer le système.
Oui, ça, on ne le changera jamais, parce que d'abord c'est trop compliqué et qu'ensuite ils y sont attachés. Une deuxième remarque sur l'affaire de légitimité, c'est que M. Trump a le cuir extrêmement peu épais dès lors que l'on met en cause sa légitimité. Il est très susceptible. Et l'une des raisons pour lesquelles il a tellement mal réagi aux accusations des agences de renseignement sur les ingérences américaines, sur les ingérences russes dans le processus, c'est que cela diminuerait sa légitimité. Et du coup, il tend à surréagir dans ces cas-là.
François nous appelle de Paris. Bonjour François.
Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. Et je dois quand même une petite remarque. Je trouve que quelquefois, vous passez beaucoup de temps sur des questions qui sont des questions, je dirais, un petit peu de cuisine.
Et, par exemple
pas assez sur des questions essentielles. Ben, par exemple, savoir si Donald Trump, le système électoral américain, on en a déjà beaucoup parlé.
Oui.
Voilà. Bon, alors la question.
Alors, l'essentiel.
Oui, ben oui, pour l'Europe. Pour l'Europe, parce que finalement, il ne s'agit pas de se mettre à la place des Américains, mais il s'agit de se mettre à la place des Européens. Donald Trump est en voie de faire tomber des régulations qui ont été mises en place précisément à la suite de la crise financière et en face de la crise climatique. Ce sont des défis tout à fait essentiels dans notre monde, qui est un monde globalisé, qu'on le veuille ou non. Comment l'Europe peut-elle réagir? Est-elle armée pour empêcher cette régression, qui est une régression qui menace toute l'humanité et pas seulement pour les intérêts de quelques milliers de travailleurs américains qui sont frappés, par exemple, dans les mines de charbon par l'évolution, par la réglementation climatique, mais qu'il s'agirait de dédommager et non, on a permis finalement de remettre en cause tout cet acquis réglementaire qui maintenant va nous manquer cruellement.
Merci François. Qui veut répondre? La réaction de l'Europe, François Bujon de l'Étang.
Mais il faut d'abord voir de quoi il s'agit exactement. Trump a annoncé des intentions, il faut voir ce qu'il va proposer dans le domaine de la réglementation. L'environnement, par exemple, dont il était question, il a dit qu'il était climato-sceptique, il a nommé des climato-sceptiques autour de lui, il a dit qu'il voulait se soustraire à l'accord de la COP21 conclu à Paris. Nous allons voir ce qu'il va faire et quelle réglementation il va proposer. Je pense que l'Europe et les Européens doivent s'attacher à faire respecter les traités qui ont été signés et à les défendre. Et dans l'ensemble, ils ont fait preuve jusqu'à présent d'une certaine unité. Sur d'autres sujets où nous serons plus exposés également, il sera plus difficile de le défendre. S'il veut, par exemple, détricoter la loi de régulation financière Dodd-Frank, par exemple, toute cette législation, c'est une affaire purement américaine qui impactera le reste du monde, mais sur laquelle nous n'avons pas de moyens d'action. Nous pouvons défendre les traités internationaux, nous le ferons, mais nous ne pouvons pas intervenir sur la législation proprement américaine.
Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour nos invités?
Oui, une question qui nous concerne tous, hein. Une question pour les Français, pour les Européens aussi, puisque c'est une question qui touche aux relations internationales et sur ce qu'on pourrait appeler cette diplomatie Twitter. On a vu un certain nombre effectivement de messages, de provocations, d'informations émaner du compte de Donald Trump. Et si Twitter avait remplacé le Telegram, quelle question est-ce que ça vous pose, vous?
Sylvie Laurent.
Ce qui est intéressant, en effet, avec cet usage hystérique quasiment de Twitter et qu'il a aussi préside assez peu à ce qu'on attendrait de la fonction présidentielle, c'est que ça met en place un nouveau tempo politique, puisque l'ensemble des journalistes, c'est très frappant quand vous suivez la presse américaine, est rivé sur le téléprompteur aux différents tweets de Donald Trump.
Y compris les propres conseillers de Donald Trump.
Qui parfois l'apprennent le lendemain matin. Mais pour les journalistes, la responsabilité est plus importante. importante. C'est-à-dire que est-ce qu'une réaction épidermique, dont on sait qu'elle n'est pas passée par les filtres politiques, et on revient toujours à ma question de légitimité, je suis un petit peu obsédée, mais la question des pratiques et des conventions sociales, là aussi, est mise en cause. Mais les journalistes américains se posent beaucoup la question, finalement, que faire de ce déluge, de cette espèce comme ça de production d'informations, sont elles-mêmes des informations, et doit-on les ériger en messages politiques? S'agit-il d'avoir eu Roosevelt avec la radio, Kennedy avec la télévision, Obama avec Facebook, et aujourd'hui Trump avec Twitter? Est-ce un nouveau mode de communication politique? Est-ce finalement dans une espèce de délire populiste, l'idée que l'on accède directement aux gens qui vous suivent sans passer par les filtres? C'est une question qui suppose le sens critique, là encore, des observateurs et des commentateurs, et sans doute que le flot de Twitter ne va pas se tarir une fois l'inauguration passée, que la question se posera.
François Bujon de l'Étang, monsieur l'ambassadeur, les diplomates vont s'adapter à ce rythme-là?
Mais ils le font comme ils peuvent, et ils le font. Ils s'adaptent aux réseaux sociaux, ils s'adaptent à beaucoup de choses, mais si vous me permettez une réaction qui est un gut feeling, comme on dirait aux États-Unis, une réaction des tripes, je trouve que le tweet, c'est la négation même de la diplomatie. Le tweet, c'est une réaction à l'emporte-pièce. C'est un propos à l'emporte-pièce. Et l'emporte-pièce, ce n'est pas de la diplomatie. C'est exactement le contraire. Pour moi, le tweet est le degré zéro de la diplomatie. Alors, cela dit, la question est importante dans le cas de M. Trump, puisqu'il est en guerre avec la presse, et avec la presse écrite, il aura tendance à faire connaître ses positions par tweet, comme il l'a fait pendant la transition, plutôt que par voie de presse. Et ça risque donc de se perpétuer.
Boomerang dans 10 minutes, Augustin Trapenard.
Il est le lauréat du premier prix du livre étranger France Inter JDD. Ilan Amar-Youssef nous en parlait il y a moins d'une heure pour ce texte magnifique, hein, quelque part entre l'enquête, l'autobiographie et le roman, La terre qui les sépare, quête éperdue d'un fils qui ne retrouvera jamais son père, Hicham Mattar, dans Boomerang, évidemment.
Restez avec nous, je vous invite à présent à écouter François Morel. François Morel, c'est à vous.